Décryptage, Marie Cazadebé.
Nous avons eu affaire à une fusillade à 22h08 cette nuit. Nous avons reçu des appels évoquant de multiples coups de feu tirés depuis Mandalay Bay vers le concert de Route 91. Nous avons déterminé la présence d'un tireur au 32e étage du Mandalay Bay.
Première conférence de presse dans la nuit du shérif de Las Vegas, Joseph Lombardo. C'était la fin de la matinée ici à Paris. Le tireur venait en réalité de se donner la mort avant même l'arrivée des forces de l'ordre. Un homme posté dans une chambre d'hôtel qui a ouvert un peu plus tôt le feu sur un concert en plein air, en contrebas de l'établissement. Il y a plusieurs dizaines de morts, un bilan qui peut encore évoluer, des centaines de blessés. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. Il s'agit là du plus important meurtre de masse de ces 25 dernières années aux États-Unis. Ce que l'on sait de cette nuit d'horreur, des motivations du tueur, nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Et bonsoir Didier Combo.
Bonsoir.
Spécialiste des États-Unis, chercheur associé à l'Institut des Amériques, auteur de Des Américains et des armes à feu aux éditions Belin. Et au téléphone avec nous, Corentin Solin, professeur en classe préparatoire en Guadeloupe, spécialiste des États-Unis. Et Olivier Chopin, directeur de programme à Sciences Po, chercheur associé à l'EHESS et auteur de Renseignements et sécurité de chez Armand Collin. Bonsoir Corentin Solin.
Bonsoir.
Une fête prise pour cible, un homme qui se revendique, ou le groupe État islamique en tout cas, qui revendique l'acte. C'est pas la première fois que les États-Unis sont touchés de cette manière. Comment pourrait-on décrire l'émotion aujourd'hui aux États-Unis ?
Oh, je crois qu'on peut la décrire comme immense, d'une part parce que c'est la plus grande fusillade de masse, vous l'avez rappelé, de ces dernières années en termes de morts. Et puis surtout, ça n'arrête plus. C'est-à-dire qu'on a cette impression aux États-Unis que c'est de plus en plus fréquent, de plus en plus meurtrier. Il y a eu, on s'en souvient, à Orlando. Là, ça frappe à Las Vegas. On avait eu aussi San Bernardino, bien sûr. On pourrait égrener ainsi des massacres, des fusillades de masse qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus mortelles.
Est-ce qu'on assiste à la même déferlante d'émotions qu'en juin 2016 après l'attaque d'un club gay à Orlando? Cette attaque avait été revendiquée par le groupe État islamique. Il y a eu 49 morts.
Je crois qu'il est encore un peu tôt pour voir l'impact, mais on peut en juger par exemple par la réaction de Donald Trump tout à l'heure, qui a livré son premier commentaire et qui, totalement à contre-registre, a été dans le discours de l'unité, du rassemblement. Et je crois que ce Trump, dont on n'a pas l'habitude, permettait de mesurer quand même le choc. Mais pour l'instant, je parlerai plus de choc encore que d'émotion. Il faudra attendre peut-être quelques heures pour voir les réactions.
Je vous propose justement d'écouter un extrait de ce discours de Donald Trump.
It was an act of pure evil.
C'était un acte qui représente le mal absolu. Dans les moments de tragédie et de douleur, l'Amérique devient unie. Elle est comme une seule personne. On s'appuie sur les liens qui nous unissent, notre foi, notre famille et nos valeurs partagées. On s'appuie sur les liens entre citoyens, communautés et le réconfort que nous procure notre humanité.
And the comfort of our common humanity.
Olivier Chopin, le président Trump n'a pas du tout fait allusion à la revendication du groupe État islamique. Le FBI dit que pour l'instant, il n'y a pas de lien avec une organisation terroriste. Est-ce que c'est encore un peu le flou là aux États-Unis ?
Ben oui, en effet, c'est-à-dire que le président, à mon avis, ne s'est pas avancé sur la véracité de la revendication par l'État islamique, dans la mesure où le FBI, mais également l'ensemble des services du département de la justice, semble très dubitatif. Donc on est vraiment à quelques heures de l'attentat, hein. Il est extrêmement difficile, mais a priori le profilage du suspect, qui est un individu qui n'est pas difficile de connaître par les moyens de renseignement contemporains, ne correspond pas du tout à un agent fraîchement converti, comme l'État islamique le prétend.
Alors ce que l'on sait, juste de ce suspect, Olivier Chopin, c'est un Américain blanc de 64 ans qui, selon l'EI, s'est converti il y a quelques mois à l'islam. Et pour vous, c'est pas un profil habituel?
C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a rien dans la revendication de Daesh qui confirme ces allégations. D'habitude, enfin les fois antérieures, Daesh revendiquait des attentats, mais avec un certain temps de retard, sans doute pour vérifier la crédibilité de l'affiliation. Donc là, on a vu une dégradation de ces revendications ces derniers temps, sans doute suite à la désorganisation de l'organisation terroriste au Levant. mais surtout, il semble qu'il n'y ait pas du tout de traces aisément mobilisables, soit par les renseignements techniques, soit par le renseignement d'analyse aux États-Unis, prouvant que M. Paddock serait affilié d'une manière ou d'une autre à une organisation terroriste internationale.
C'est en tout cas toujours le même média qu'utilise le groupe État islamique, là en l'occurrence l'organe Hamak.
Oui, alors c'est vrai que le fait que l'État islamique revendique l'attentat n'est pas en cause, hein, c'est sans doute une authentique revendication, mais est-ce que ce qui est revendiqué est authentique ? Là, pour l'instant, ça a l'air relativement contesté. Donc si, par exemple, le FBI, c'est une hypothèse totalement gratuite que je fais à ce stade, a trace qu'il s'agit d'un individu qui a d'autres formes d'idéologie que celle islamique et qu'on va peut-être se retrouver à la fin avec un attentat domestique d'une telle ampleur, on comprendrait la prudence pour l'instant des services de police et de renseignement et donc aussi la prudence du président des États-Unis qui ne peut pas faire des déclarations tornitruantes reprenant à son compte la revendication de Daesh.
Quand en cela une autre attaque avait été revendiquée par le groupe islamique, on l'a évoqué, hein, c'était Orlando contre un club gay en juin 2016, donc la mort de 49 personnes, mais il y a jusque-là peu d'attaques par rapport à des pays comme la France et la Grande-Bretagne. Est-ce que les États-Unis sont vraiment une cible du groupe État islamique ?
Oui, ils sont une cible, mais il ne faut pas oublier qu'après le 11 septembre, les États-Unis se sont dotés en avance de toutes les autres démocraties industrialisées, d'une législation de sécurité intérieure avec le Patriot Act et les lois qui ont suivi, d'une législation très renforcée qui permet aux services de renseignement et en particulier au ministère de la Sécurité intérieure d'être assez efficace contre les tentatives d'infiltration terroriste. Et justement, même si je laisserai là M. Chopin, qui est plus compétent que moi, en parler, le problème, c'est que on voit un terroriste local. Alors, est-ce qu'il était relié à l'État islamique ? Mais la frappe, entre guillemets, viendrait de l'intérieur. Mais par rapport à des infiltrations extérieures, les États-Unis avaient pris d'avance après le 11 septembre, en particulier avec le Patriot Act.
Olivier Chopin, c'est ce qui explique finalement les États-Unis sont peu ciblés par des attaques terroristes. Je le disais, hein, contrairement à notre pays, la France ou la Grande-Bretagne.
Alors, il y a la question du nombre de tentatives et du nombre de tentatives qui sont ratées de soi-même par les organisations ou qui sont entravées par les services de renseignement. C'est vrai, là, Corentin Célin a parfaitement raison, le dispositif permettant d'éviter des attaques venant de l'extérieur jusque sur le territoire américain est très développé, y compris avec un gros dispositif d'exportation de la puissance militaire américaine sur les zones du monde où il y a des foyers de terrorisme international, afin d'éviter que ces attentats se produisent sur leur sol. Là, clairement, ça ressemble à ce qu'on appelle un loup solitaire, mais la recherche sur le terrorisme a montré que les loups solitaires, c'est très très rare, que c'est quand même une construction politique un peu spécieuse. Très souvent, les individus qui passent à l'action ont quand même des relations avec des groupes qui sont clandestins et qui ont des projets politiques mortifères. La question, c'est est-ce que cet individu, Craig Paddock, est lié à Al-Qaïda, ou enfin à Daesh, pardon, au niveau international, ou est-ce qu'il est lié à d'autres formes d'organisations qui pourraient, pourquoi pas, être locales ou qui pourraient être nihilistes et ne pas avoir de vocation religieuse.
En tout cas, dans ce message, hein, qui reste donc à éclaircir du groupe État islamique, qui a l'air de revendiquer en tout cas cette attaque, il parle d'un homme qui agit en réponse aux appels du groupe à prendre pour cible les pays engagés dans la lutte contre le groupe État islamique. Et là, les États-Unis sont évidemment aux avant-postes de cette lutte.
Oui, tout à fait. Bon, c'est eux qui sont les leaders de la lutte globale contre l'organisation terroriste État islamique. Les États-Unis ne se sont pas encore retirés d'un certain nombre de foyers d'autres organisations terroristes comme Al-Qaïda, que ce soit dans la bande sahélienne ou que ce soit en Afghanistan ou au Pakistan. Donc les opérations spéciales, les opérations clandestines, ils appellent ça covert action, continuent dans toutes ces zones. Mais précisément, on voit que la stratégie de Daesh pendant quelques années a été de frapper les adjoints, si on peut dire, des États-Unis dans cette lutte globale, notamment les États européens, notamment la France. Donc là, si jamais il s'avère que Craig Paddock est vraiment affilié à l'État islamique, hein, c'est une possibilité vu cette revendication, ça supposerait effectivement un renversement assez fort de la stratégie de Daesh de venir affronter directement et frontalement la puissance américaine.
Ce suspect, donc, c'est un Américain blanc de 64 ans, je le répète, hein, qui se serait converti il y a quelques mois à l'islam. Ça reste encore à prouver. Didier Combeau, ce que l'on sait, c'est que le tueur présumé avait avec lui 9 armes. Les témoins parlent d'une arme automatique. Ils l'ont reconnu a priori au bruit. Vous, qui avez travaillé donc sur les meurtres de masse aux États-Unis, est-ce qu'il est simple aux États-Unis de se procurer une telle arme aux États-Unis ? Une arme automatique.
Alors, les armes complètement automatiques sont réglementées depuis très longtemps, hein, puisqu'elles sont réglementées depuis 1934. Mais néanmoins, on estime qu'il y en a à peu près 180 000 en circulation aux États-Unis. Et donc, ça n'est pas impossible de s'en procurer une.
Mmh. C'est
un petit peu plus compliqué. Oui, cela peut être légal, effectivement. On peut être autorisé, dans certains cas, à posséder une telle arme. Cela dit, c'est un petit peu plus difficile que des armes semi-automatiques. Et effectivement, on a l'impression quand même que l'arme qui a été utilisée est une arme automatique parce qu'elle tire des rafales très rapidement. Une arme semi-automatique ne tire qu'une cartouche à chaque fois qu'on appuie sur la détente. Donc on peut tirer beaucoup de cartouches, mais pas à ce rythme-là. Donc on a vraiment l'impression qu'il s'agit effectivement d'une arme automatique, un petit peu plus difficile d'accès que des armes
semi-automatiques. Comment on peut expliquer même la possibilité d'avoir recours à une arme automatique ? Là, on imagine vraiment que c'est une arme de guerre. On peut pas parler d'arme de chasse, par exemple.
Alors, il y a quand même aux États-Unis un grand nombre de stands de tir où on peut utiliser des armes complètement automatiques. Donc c'est aussi une distraction aux États-Unis d'utiliser une arme complètement automatique. Donc on parle effectivement en France d'armes de guerre, mais cette classification n'existe pas aux États-Unis. Le fait de nommer ces armes en France, de les nommer armes de guerre, ça veut dire a priori que seul l'État peut en avoir l'usage. Cette terminologie n'existe pas aux États-Unis.
Alors là, ça s'est passé donc à Las Vegas, dans l'État du Nevada. Est-ce que la législation sur les armes y est particulièrement permissive ?
Oui et non. C'est un État qui est un État moyen aux États-Unis en termes de permissivité sur les armes à feu. Il y a les groupes de pression pour la réglementation des armes à feu donnent une note aux États. Et l'État du Nevada est noté C-, ce qui veut dire qu'il est dans la moyenne, grosso modo. Ça n'est pas un des États les plus permissifs, mais ça n'est pas non plus un État très restrictif. On peut très facilement avoir un permis de port d'armes si on remplit les conditions nécessaires, le gouvernement est tenu de délivrer un permis de port d'armes, alors que dans d'autres États, il va falloir expliquer pourquoi on a besoin de porter une arme. Au Nevada, c'est pas le cas. Si on a l'âge qu'il faut, si on n'a pas d'antécédent judiciaire, etc., on peut très facilement avoir un port d'armes. Et il n'y a pas de réglementation de l'achat des armes. Au Nevada.
Pour revenir à cette tuerie de Las Vegas qui s'inscrit malheureusement dans une série, on a évoqué Orlando, Virginia Tech en avril 2007, Sandy Hook en décembre 2012, il y en a énormément. Qu'est-ce qui retient par exemple votre attention avec ce qui s'est passé à Las Vegas ? On parle d'un homme avec donc peut-être une arme automatique au 32e étage d'une tour qui tire dans une foule en plein air. Est-ce qu'il y a quelque chose qui retient votre attention ?
Moi, ce qui retient mon attention dans cet événement, c'est l'aspect symbolique. Il s'agit d'un concert, c'est un événement qui prend place à Las Vegas. Vous savez que Las Vegas, c'est un endroit où beaucoup d'Américains vont passer un week-end, vont passer quelques jours pour jouer dans les casinos. C'est donc un lieu très touristique pour les Américains. C'est un lieu relativement central aux États-Unis. Et puis, c'était pendant un concert de musique country, donc un concert qui est finalement assez lié aux racines américaines. Donc il y a peut-être un aspect symbolique. Peut-être que dans le cadre d'une revendication de Daesh, on pourrait voir là une cible symbolique. Mais bon, il est trop tôt pour...
En tout cas, Las Vegas, croiser des chemins aux États-Unis, une fête populaire prise pour cible. Est-ce que cette nouvelle tuerie pourrait relancer le débat sur les armes à feu ?
C'est possible. Le débat est relancé chaque fois qu'il y a une tuerie. Alors c'est vrai que les tueries sont de plus en plus meurtrières. Cela dit, quand on pense à la tuerie de Newtown qui était dans une école primaire où il y a eu 27 victimes, dont un très grand nombre d'enfants très jeunes, le débat a été relancé. Obama a essayé de faire passer des réglementations pourtant très limitées hein, sur le droit aux armes.
Alors lui, c'était plutôt sur le contrôle psychiatrique, judiciaire, c'est ça, des porteurs d'armes. Il voulait qu'on inspecte un petit peu le passé des potentiels clients. C'était ça.
Alors, il a pas tellement le choix parce que la réglementation des armes, on peut réglementer soit le commerce des armes, c'est-à-dire l'achat ou la vente, soit la détention d'une arme à la maison, soit le port. La seule chose que l'État fédéral puisse faire, c'est réglementer le commerce parce que la Constitution lui donne le droit de réglementer le commerce entre les États. Mmh. Et comme les armes sont en général produites dans un autre État, il peut exiger effectivement des contrôles au moment de l'achat. Mais c'est à peu près tout ce qu'il peut faire. Et à l'heure actuelle, les contrôles existent au moment de l'achat, mais uniquement chez les armuriers patentés et uniquement pour l'achat d'une arme neuve. Si vous voulez acheter une arme d'occasion, il n'y a aucun contrôle à faire. Mmh. Et donc, se procurer des armes aux États-Unis, c'est extrêmement facile. Vous pouvez m'envoyer dans n'importe quel État des États-Unis. Je pense qu'en l'espace d'une semaine, j'arriverai à avoir une arme semi-automatique très facilement. S'il fallait que je le fasse en France, je ne sais pas par quel bout je prendrais les choses.
Corentin Célin, est-ce que vous pensez que cette tuerie peut relancer encore le débat sur les armes ou finalement, depuis l'arrivée de Donald Trump, il y a peu de chances que ce débat-là arrive, en tout cas à la Maison-Blanche?
Alors, je ne sais pas si ça va être relancé, parce que comme vous l'avez dit, c'est à chaque fois la même rengaine, et à chaque fois, une fois l'émotion passée, le poids en particulier de la NRA, du lobby conservateur des propriétaires d'armes, est si fort que rien ne se fait. Par contre, il y a une échéance importante, parce que devant le fait que l'État fédéral ne fait plus rien, en particulier sur les armes semi-automatiques, sur ce qu'on appelle les armes d'assaut, depuis l'extinction de l'interdiction fédérale sur les armes d'assaut en 2004, certains États ont pris les devants et on fait des interdictions des armes semi-automatiques, des armes d'assaut. Et en particulier, un État libéral comme le Maryland, au sud de Washington, en 2013, a édicté une interdiction de ces armes d'assaut. Et il se trouve que cette interdiction est contestée en justice par les partisans de la liberté de propriété et de port des armes, et que cette contestation va aller devant la Cour suprême sans doute cette année, en 2017-2018. Et donc là, on aura une décision très importante en justice pour savoir si la Cour suprême, l'autorité judiciaire suprême des États-Unis, inclut dans le droit constitutionnel d'avoir une arme le fait d'avoir une arme semi-automatique, en l'occurrence une arme d'assaut. Et ça va être une décision qui va être très scrutée, évidemment, après Las Vegas.
Didier Combeau, sur le fond, pendant sa campagne, Donald Trump prenait tout de même une liberté totale.
Oui, effectivement, Donald Trump est incontestablement du côté des gens qui sont favorables à l'accès aux armes. Mais, encore une fois, l'État fédéral, ce n'est qu'un des éléments dans le contrôle des armes. Alors, l'interlocuteur précédent a parlé des arrêts de la Cour suprême. Ça, c'est quelque chose de très important parce que le droit aux armes, il est dans la Constitution. C'est le second amendement à la Constitution qui fait donc partie de la Déclaration des droits. La Déclaration des droits est quelque chose d'intouchable aux États-Unis. Il est absolument impossible d'envisager que cet amendement n'existe plus. Et la question donc porte non pas sur l'existence de l'amendement ou pas, mais sur l'interprétation de l'amendement. Oui. La Cour suprême, en 2008... pour la première fois, s'est exprimée sur ce que signifiait l'amendement. Et elle a dit clairement que l'amendement ouvrait le droit aux armes aux particuliers. Mais elle a dit aussi que ça n'interdisait pas un certain nombre de réglementations, mais sans dire lesquelles.
Et donc, c'est la marge de manœuvre.
Et c'est pour ça qu'effectivement, avec l'arrêt qui va venir, on va en savoir un petit peu plus. Mais c'est vraiment une lutte pied à pied. Si la Cour suprême autorise la réglementation sur les armes d'assaut, ça ne répondra pas à la question sur les armes de poing. Donc, on ne sera pas beaucoup plus avancé.
En tout cas, c'est quelque chose qui étonne beaucoup à l'étranger, notamment en France. Hein, cette logique et l'importance que cela prend aux États-Unis. Par exemple, dans la société américaine, aujourd'hui, c'est vraiment un débat.
Oui, parce que beaucoup d'Américains tiennent beaucoup à leurs armes pour deux raisons. Pour une raison politique, qui est la possibilité de se révolter éventuellement pour un gouvernement qui deviendrait tyrannique, ou bien tout simplement pour l'autodéfense.
Merci beaucoup Didier Combeau, merci à Corentin Célin, Olivier Chopin qui était avec nous au téléphone, merci à Éléonore Krynick, Claude Battista qui m'ont aidé à préparer cette émission. Décryptage à retrouver sur Twitter, sur Facebook, n'hésitez pas à poser vos questions sur les prochains thèmes d'actualité. Merci, bonne soirée.